Ça vaut le détour avec Luc Fortin.
Bon jeudi tout le monde. Luc Fortin en compagnie de Kamal Salifou pour ce détour de 58 minutes, un détour qui, je l'espère, vaudra la peine pour vous. Je sais déjà qu'il en sera très bénéfique pour moi. Au lendemain de ce sommet Destination pour tous, qui avait lieu à Montréal du 19 au 22 octobre, pour ceux qui nous écoutaient en différé, organisé par Kéroul, on va aujourd'hui passer les prochaines minutes pour causer tourisme sous différents angles, avec notre bonne adresse, avec Espace pour la vie et les modifications apportées. Est-ce que ça fonctionne? Et surtout, est-ce qu'on va poursuivre l'accessibilité pour la rendre universelle, pas juste dans la cour des sens, mais vraiment partout dans cet espace pour la vie de la ville de Montréal? Nous allons également regarder des grilles et des façons d'évaluer que ce soit le tourisme loisir et certains espaces dans la ville de Montréal. Et c'est ainsi qu'on va démarrer cette émission, puisque vous n'êtes probablement pas sans savoir qu'une politique municipale d'accessibilité universelle a été mise en place en 2011 à Montréal. Et on voulait savoir si cette politique-là a eu des impacts positifs sur l'accessibilité. On parle évidemment d'espaces urbains et cette question-là, ben, on va la poser à François Racine qui, justement, est allé répondre à cette question du côté du Destination pour tous au Palais des Congrès cette semaine. François, qui est professeur au département des études urbaines à l'UQAM. Bonjour, François. Ah, on commence avec Dominique. Bon, ben c'est parfait. Moi, j'avais ça inversé dans mes petites notes. C'est excellent. Donnez-moi 40 secondes, Dominique, juste changer mes petites notes. Dominique Lapointe, qui lui aussi est dans l'évaluation, cette fois du tourisme loisir ou loisir-tourisme. Il est chercheur à l'UQAM, travaille au conseil québécois du loisir. Vous avez mis de l'avant une méthodologie pour que ce soit municipalité, propriétaire, puissent éventuellement savoir si leur offre loisirs touristiques est accessible pour tous.
Oui, à vrai dire, petite correction, je suis professeur à l'UQAM, mais par rapport mon lien avec le Conseil québécois du loisir, c'est le partenaire avec lequel de la recherche pour développer l'outil de diagnostic de l'accessibilité aux loisirs et bon loisirs touristiques de par le fait même universel. Mm-hmm. Donc oui, l'objectif c'est de développer un outil d'animation sous forme d'une grille d'autodiagnostic qui permet à des milieux d'évaluer dans le fond leur accessibilité en lien avec quatre vecteurs qui sont l'accessibilité physique, temporelle, donc en lien avec le temps disponible, mais aussi le temps pour se rendre, se déplacer, le vecteur économique, hein, donc au niveau des coûts, et le vecteur culturel. Et à tout ça, nous, on a rajouté un autre élément d'évaluation qui est organisationnel, parce que dans le fond, il y a des questions dans la grille sur la culture de l'accessibilité dans l'organisation.
Pouvez-vous me donner un exemple du genre de question? Parce que j'aurais tendance à penser que ceux qui se lancent dans la business du loisir touristique ont déjà fait ces évaluations-là. Tu veux faire une étude de marché, tu veux pas te lancer dans quelque chose à l'aveuglette.
Oui, ben, à vrai dire, la différence, c'est que par rapport à une étude de marché, les gens vont évaluer, souvent au niveau des études de marché, l'accessibilité va être vue de manière beaucoup plus physique, hein? Donc la question physique et informationnelle, donc la question des rampes d'accès, de l'adaptation des équipements aux différentes clientèles. Nous, dans notre cas, ce que nous voulons, c'est une approche plus globale, hein? Donc, un exemple qu'on peut voir, c'est la question du transport. Hein, la question du transport en termes d'accessibilité, ben, ça a des. Mais il y a une question d'accessibilité physique. Est-ce qu'on est capable d'avoir accès au transport? Est-ce que le transport est capable d'avoir accès aux équipements, hein, la distance aussi? Il y a une question de temps. Hein, le temps que ça nous prend pour faire notre déplacement, mais aussi pour avoir accès à ce transport-là. Et le troisième élément, c'est économique. Donc, dans quelle mesure les coûts de ce transport-là vont limiter l'accès aux loisirs ou aux loisirs touristiques.
Mais Dominique, si je regarde cet exemple-là, évidemment que tout ça va varier selon la provenance du client. Si je viens d'Europe, si je viens de Montréal, ou si... dans le cadre d'une pourvoirie en Abitibi, je viens d'Amos, ben, ni le temps ni le transport coûteront la même chose.
Exact. Vous avez tout à fait raison et c'est l'originalité de la démarche c'est un work in progress. Mm-hmm. Nous, on est à la moitié du processus pour l'instant. C'est une recherche partenariale, donc on travaille avec des partenaires qui sont le Conseil québécois du loisir, le regroupement des centres communautaires et l'organisme de liaison et de transfert TIES, le territoire innovant en économie sociale et solidaire. C'est que nous, on veut essayer de garder une part de subjectivité territoriale d'une certaine manière pour que notre grille puisse se moduler selon certains critères en lien avec les espaces qui offrent du loisir ou qui sont des décideurs qui interviennent en termes de loisirs. Donc, vous savez, le type de question, ben, si on regarde la question du transport en commun, dépendamment, la question, on va demander si l'ensemble du territoire est desservi par du transport en commun, une partie du territoire ou s'il n'y a pas de transport en commun. Et tout dépendamment de qu'est-ce que les gens vont répondre, ben, ça va pondérer, ça va modifier la manière dont leurs autres réponses vont influencer le résultat final.
Ouais.
L'autre chose qui est bien importante à comprendre, nous, c'est un outil d'auto-évaluation qui s'avère aussi être un outil d'animation pour que les décideurs puissent réfléchir suite à leurs résultats, discuter et débattre de comment ils peuvent améliorer leur accessibilité et continuer d'évoluer dans la culture d'accessibilité. Donc, on n'est pas du tout dans un système qui met les gens, qui classe les gens sous forme ou les territoires ou les sites de services sous forme de palmarès en compétition l'un avec les autres. Hein? Puis, quand on parle de loisirs et de loisirs touristiques, il y a aussi toute la dimension entre les touristes versus les locaux. Et je vais vous donner un exemple qui est celui de la municipalité de Notre-Dame-du-Portage, tout près de Rivière-du-Loup, qui est un pôle de villégiature dans le Bas-Saint-Laurent, hein, où est-ce qu'il y a des gîtes, des auberges, donc trois auberges, plusieurs gîtes, et où est-ce que les équipements de loisirs et de loisirs touristiques associés à cet espace-là sont pour la plupart sous la gouverne de la municipalité, mais qui se trouve à desservir en même temps les locaux, les villégiateurs qui, eux, passent l'été là-bas, et les visiteurs qui sont de passage pour quelques jours dans les auberges. Donc, on parle d'une piscine, on parle d'un parc pour les enfants, on parle de terrain de tennis, on parle d'un quai qui est un espace d'habitation, pas d'habitation, mais d'animation sociale, on parle d'une plage. Et donc, pour un milieu comme ça, de réfléchir à l'accessibilité aux loisirs, ça nécessite aussi de se poser la question des touristes qui fréquentent leur espace. Parce qu'en même temps, s'ils peuvent avoir le niveau d'équipement qu'ils ont, c'est aussi parce que la fréquentation des touristes amène des revenus qui permet à cette petite communauté-là d'avoir des équipements qui sont, je dirais, supérieurs à la moyenne des milieux ruraux similaires.
Est-ce qu'il y a cette grille d'évaluation une façon pour un propriétaire ou pour une municipalité de savoir si l'investissement au chapitre de la personne vivant avec des limitations fonctionnelles se rentabilise rapidement, pas du tout, ou au contraire, même on fait du profit?
Je vous dirais, dans la démarche telle qu'elle est dans le projet actuel, cette dimension-là de la rentabilité n'est pas inclue. on est dans une démarche d'amélioration de service. Et la dimension rentabilité, elle reste à l'intérieur parce que les cadres de référence des différents milieux et des différents, je dirais, propriétaires, quand on parle d'installations majeures, sont tellement variés que nous, on est dans une approche beaucoup plus sociale.
En même temps, on comprend que c'est souvent l'argument massue pour motiver à enjoliver ce loisir touristique.
Oui, mais du côté de l'approche qu'on a, qui, nous, est une approche informée par l'économie sociale, nous, on voit l'accessibilité universelle aux loisirs, mais aux loisirs touristiques de par le fait même, parce que ça fait partie de la grande famille du loisir, comme étant quelque chose qui fait partie, un facteur d'intégration sociale, un facteur de qualité de vie. Donc, on le prend vraiment du côté qualitatif au niveau social dans les éléments qui permettent à un humain de vivre pleinement sa vie de manière satisfaisante. Donc, c'est
Ça, c'est...
complètement un autre angle qu'un
Oui, c'est
angle,
ça.
je dirais, économique et rentable.
Donc, c'est un outil qui est indiqué pour celui qui se préoccupe du service et de la satisfaction du client, plus que, disons, sa pérennité. C'est ce que je comprends.
Oui, la dimension économique associée à ça, les rapports, tu sais, les évaluations coûts-bénéfices avec l'amélioration de l'accessibilité, il y a des méthodes là assez éprouvées au niveau des études de ça qui existent. Dans notre cas, nous, c'était beaucoup plus pour outiller, comme je disais, les milieux municipaux en grande partie, qui eux sont moins dans une logique de profit et les amener à développer une culture de l'accessibilité qui est multifactorielle, hein, avec nos quatre vecteurs et qui est aussi qui ne remet pas en question je dirais, l'importance du loisir. Donc, le loisir est un droit
Oui, c'est ça. Ça, c'est bien de le dire.
dans cette perspective-là. Et au Québec, on a eu ça, là, une déclaration de droit d'accès au loisir là, au début des années 2000, si ma mémoire est bonne.
En terminant, Dominique Lapointe, est-ce que cet outil-là est facile d'utilisation et est-ce qu'un organisme pourrait l'utiliser pour ensuite approcher les conseillers municipaux en leur disant, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais il manque ça, ça, ça. Par contre, félicitations pour ceci, ceci et cela.
Écoutez, l'outil dans sa forme actuelle est en version bêta, est encore un peu difficile en termes d'usage, là. Par contre, on va démarrer après les fêtes la phase de mise à l'essai. Donc, on a une dizaine de milieux municipaux qui, eux, vont travailler avec, vont nous permettre de l'améliorer autant de son usage parce que c'est une grille informatique que dans son contenu. Donc, je vous dirais, quelque part au printemps 2015, elle devrait être disponible. Et via le Conseil québécois du loisir, cette grille-là va être. L'objectif, c'est qu'elle soit largement diffusée dans les milieux de pratique qui s'intéressent à l'accessibilité au loisir. On vise principalement le loisir municipal, les centres communautaires. Écoutez, si d'autres intervenants voulaient travailler avec cette grille-là, avec besoin d'adaptation ou non, il peut toujours y avoir de l'ouverture.
Oui, c'est ça, on peut la mettre à sa main finalement, selon
Exact.
notre réalité.
Exact.
Dominique Lapointe est professeur à l'UQAM. On le joignait du côté de Rivière-du-Loup. Merci beaucoup, Dominique.
Merci.
On
Au revoir.
écoute Trio et ensuite on va causer avec François.
J'aurais préféré pour toi juste inverser le cours des choses. J'aurais aimé.
Et toi?
Une main tendue, une rose.
J'aurais aimé de toi la certitude d'un geste. Simplement quand ça ne va pas, ne pas se fuir comme la peste.
Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même. Et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème. Ce que l'on sème.
J'aurais préféré, ma foi, éviter nos sombres démences. Et maintes fois, oublier partir en vacances. En vacances de toi, mais comme l'amitié nous rattrape à chaque fois.
Autant tenir quand ça dérape.
Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même. Et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème. Ce que l'on sème. Ce que l'on sème. J'aurais bien voulu, tu sais, tenir le cap, sauver les murs, courir sans m'arrêter, ne pas frissonner sous l'armure.
Et j'aurais voulu, tu sais, la longue traversée tranquille. J'aurais même imaginé
ne jamais atteindre une rive. Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même. Et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème. Ce que l'on sème. Ce que l'on sème.
Aimer, tu sais, éviter nos fausses mesures. J'aurais même préféré de nous une lettre d'injure.
J'aurais voulu parfois, oui, t'étrangler aux quatre vents, te serrer dans mes bras. Ah, ça, je l'ai voulu souvent. Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même. Et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème. Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même. Récolter ce que l'on sème, ce que l'on sème, ce que l'on sème, ce que l'on sème, ce que l'on sème.
La formation Trio sur Canal M et sur canalm.org. À venir à l'émission, entre autres, un petit jazz avec Linda Galland, qui est propriétaire de l'Auberge des Galands. Si vous avez écouté La Facture cette semaine, vous savez qu'elle mérite d'être une de nos bonnes adresses ici à l'émission. Et nous allons également nous informer sur l'accessibilité à espaces pour la vie, donc insectarium, biodôme, planétarium et le jardin botanique. Mais tel qu'annoncé, François Racine, lui, est du département des études urbaines à l'Université du Québec à Montréal. Je ne me trompe pas jusqu'à maintenant, François?
Non.
Et je suis content qu'on puisse causer, vous et moi, parce que, bon, ce soir, entre autres, je vais aller me balader du côté du quartier des spectacles, endroit qui suscite une grande déception pour moi. Il y a eu, comme je disais en début d'émission, donc cette mise sur pied d'une politique municipale d'accessibilité universelle l'a eu mise en place en 2011 pour Montréal. Et il y a eu donc une étude, une évaluation pour voir si ces effets sont positifs, négatifs, partiels. J'imagine qu'il y a un peu de tout. Et bon, on va regarder ça ensemble. Commençons par la façon que vous avez mené l'étude et surtout qui a commandé cette évaluation.
Ben, étant professeur nouvellement engagé justement au département d'études urbaines et spécialisé en design urbain sur les méthodes et les pratiques, donc la question de la conception des espaces publics est un champ de recherche et de pratique intéressant, en tout cas dans le cadre académique. Moi, j'enseigne à des étudiants qui vont être appelés éventuellement à concevoir des espaces urbains, donc futurs urbanistes. Donc, dans ce cadre-là, et compte tenu qu'il y a une nouvelle politique en 2011, je me suis posé la question comme chercheur, est-ce que nos espaces publics passent le test? Il y a aussi la conjoncture par rapport au sommet mondial, Destination pour tous, où je crois que c'est intéressant de faire un bilan, une recherche. Donc, c'est vraiment dans un cadre académique, c'est pas dans le cadre d'une commande privée ou ainsi de suite.
Donc, c'était votre idée. C'était votre idée.
C'était mon idée, effectivement.
Et voilà. Est-ce que, je présume que ça a servi en même temps de sensibilisateur auprès de vos étudiants qui, possiblement, ne s'étaient pas encore posé la question d'accessibilité pour personnes à mobilité réduite. À quel point avez-vous remarqué peut-être un impact, certains yeux qui se sont ouverts plus grands que ce que vous auriez présumé?
Bien, écoutez, il se pose beaucoup de questions à ce niveau-là. En tant que concepteur, on se pose toujours la question des usagers de l'espace public. On travaille pour la collectivité, en fait. Donc, c'est vraiment de trouver peut-être des outils ou des façons de se mettre dans la peau, presque un jeu de rôle, pour se dire, si vous aviez les yeux bandés, vous aviez à vous promener dans l'espace, quels seraient vos repères? Comment vous imagineriez? Comment vous seriez capable de faire une représentation mentale dans l'espace dans lequel vous êtes?
Ça, c'est dans le meilleur des mondes, mondes, François. Mais si on regarde encore l'exemple du quartier des spectacles, ceux qui l'ont conçu ne se sont pas posés ces questions-là.
Ben, mon but n'est pas de faire le jugement, je dirais, des concepteurs. C'est une fois il y a une politique en place, l'espace a été construit. Maintenant, quels sont les bons coups et les coups, les éléments positifs et les éléments qui sont encore à parfaire? Je pense que c'est dans un processus d'amélioration, puisque le design urbain est une discipline assez jeune au Québec, là, on s'entend, donc ça date des années 50-60. On sait qu'il y a eu des opérations. Puis même si on regarde le quartier des spectacles, il y a eu quand même des opérations des années 60 avec la mise en place de la... du complexe comme tel, avec cette dalle qui est surélevée, en fait, donc qui est très difficile d'accès en passant.
Et mais la raison pourquoi je disais cela, c'est que vous me dites, les étudiants, dans le design urbain, notre rôle est de se mettre à la place d'eux, et sans pointer du doigt et nommer des noms, ce que je comprends, c'est que dans les écoles, on n'a pas tous cette sensibilité-là, puisque les gens qui ont été mandatés pour cet espace-là, on passait à côté des personnes aveugles. Donc, c'est pas donné à tous ceux qui travaillent dans ce domaine-là de se mettre dans la peau de tous.
Bien, en tout cas, il faudrait pouvoir le faire. Il faudrait vraiment qu'en amont, dans la conception même du projet, que ces éléments, je dirais, moi, c'est des éléments de lisibilité que j'appelle en termes de compréhension des limites et des repères de l'espace public, que ces éléments-là soient dans le processus de conception plutôt qu'arriver a posteriori puis amener des correctifs.
On s'entend.
Ou dans une autre idée où on doit médicaliser l'espace public, donc créer deux réseaux, ce qui n'est pas nécessairement plus intéressant, parce que j'ai vu à certains moments donnés cet été, justement dans mon analyse, lorsqu'on ferme complètement le quartier des spectacles à la voiture, en fait. Là, il y a des spectacles en plein air, il y a des éléments, je dirais, de gradins qui me semblaient intéressants puisque ça permettait une utilisation simultanée des gens qui avaient des problèmes de mobilité, des gens qui pouvaient s'asseoir dans les marches et, en fait, jouir en même temps, simultanément, de spectacles et d'éléments qui sont offerts à l'ensemble de la population. Donc, à certains égards, je trouvais qu'il y a certains éléments positifs. Il y a des sections où on partage, des sections où c'est des espaces partagés, on met des cyclistes et des piétons ensemble, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pour personne, en fait. Ça fonctionne difficilement pour les gens qui ont des problèmes de mobilité, des problèmes de visibilité, ainsi de suite, parce qu'il y a une insécurité, puis même aussi pour tous les piétons. Donc, il y a certains éléments qu'on au niveau de la réflexion des designs urbains dans cette idée d'essayer de faire en sorte que l'espace public ait moins de limites, moins de barrières, de faire en sorte que les espaces publics soient plus appropriables par les piétons. On est en train de travailler cet aspect-là. Donc. Puis après ça, il y a toute cette dimension-là sur différents types d'usagers. Puis là, je pense que c'est là que c'est intéressant parce qu'on peut... Je parlais justement d'une dame qui avait des problèmes de visibilité. Puis toute la question de la sonorité, des sons dans l'espace public comme des repères, comme des éléments pour arriver à se situer, bien, je trouve que c'est vraiment des éléments intéressants pour la conception des designs.
Prenons ça, là, avant comme je te pousse, vous me lancez des idées parce que vous avez évalué tant le revêtement de sol, également, que ce soit au niveau de différents obstacles verticaux, horizontaux. Sortez-moi des choses positives que vous avez remarquées dans le design urbain montréalais depuis 2011.
OK, je vais sortir. En fait, je peux juste vous parler du quartier. En fait, la recherche, elle est partielle, c'est vraiment sur le quartier des spectacles. Donc,
d'accord.
Je vais faire une réflexion. C'est un projet de recherche à poursuivre, à certains égards. Ouais. Donc, si je regarde... comme je vous dis, la portion de la rue Sainte-Catherine, lorsqu'elle est non accessible par les voitures, en termes de confort, en termes de lisibilité de l'espace, en termes de régularité géométrique, c'est vraiment un espace qui est très accessible, là, qui fonctionne relativement bien. C'est lorsqu'on vient mettre les voitures, qu'on remet en fait les parcomètres, les éléments, où là les limites deviennent beaucoup plus floues.
9 mois par année.
Voilà, c'est ça. Donc, mais en tout cas, dans cette portion-là, cette idée que l'espace peut devenir piétonnier, une zone de rencontre, ça fonctionne assez bien. Les surfaces sont très lisses. On peut se balader d'un coin à l'autre. Bon, il y a une certaine accessibilité au niveau des terrasses qui ne sont pas toujours évidentes, au niveau du complexe, au niveau du complexe des jardins. Mais comme tel, ça va bien. L'autre espace qui fonctionne, comme je disais, c'est vraiment la place comme telle, la place des festivals. Il y a quand même des limites assez claires. Il y a des zones. Bon, c'est sûr que pour se repérer dans un espace très grand, c'est peut-être plus difficile, mais il y a quand même des éléments de mobilier linéaire qui permettent quand même d'avoir certains repères. Il y a aussi. Au niveau des surfaces, je pense qu'en général, au niveau des surfaces au sol, le quartier des spectacles, il y a un effort quand même assez particulier qui est bien. Bon, j'ai parlé de la question de l'allée des artistes qui est derrière. Ça, c'est vraiment la partie la plus problématique, là, celle qui est située derrière la place des Arts, puis avec le complexe des sciences de l'UQAM. Là, il y a vraiment... On est allé avec une idée de zone partagée, et ça ne fonctionne pas du tout aux intersections. Il n'y a pas de bateau pavé. Là, vraiment, c'est très, très problématique. Puis c'est plus comment... On intègre le cycliste dans la ville. Ouais. Ça pose problème.
Est-ce que, finalement, c'est un constat où vous allez jusqu'à peut-être proposer des pistes de solutions pour corriger certaines choses?
Bien, comme je vous dis, en tant que professeur en design urbain, en tant que intervenant auprès des futurs designers urbains, moi, je... Mon travail de recherche, c'est plutôt en amont. Mm-hmm. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent au niveau de la recherche, au niveau des normes, au niveau des éléments correctifs. Ça, c'est un autre aspect que moi, comme tel, j'aborde pas. Je pense que juste avec la question de réfléchir sur comment on conçoit l'espace public, comment on peut intégrer des critères de confort, de lisibilité, de géométrie, pour faire en sorte que les espaces... de plus en plus, je dirais, passe le test de l'accessibilité, que ça soit même un élément, même plus qu'on ait à se poser une question, ça va de soi qu'un bon espace public est accessible, quoi.
À l'heure où on se pose la question, que faire du tronçon Bleury à Atwater du côté de la rue Sainte-Catherine-Ouest, est-ce qu'une étude comme celle qu'ont faite vos étudiants, qui n'est pas terminée, pourrait être utilisable par des décideurs?
Absolument, oui, éventuellement. Si on poursuit des éléments de recherche avec chaque nouveau espace ou chaque nouvel aménagement est évalué, regardé, observé, puis on tire des leçons. Je pense qu'à long terme, pour les intervenants et aussi pour les usagers, je pense qu'on gagne tous collectivement là, à parfaire notre démarche de design urbain au Québec. Montréal est une ville de design, donc la question de l'accessibilité, comment on l'intègre dans le milieu bâti, ça me semble un enjeu intéressant et important pour se positionner là, à l'échelle touristique internationale.
Allez-vous la rendre publique, cette étude-là?
Ben, je suis en train de travailler. Parce qu'on a démarré à l'UQAM un nouveau centre de recherche c'est un programme sur l'accessibilité. On essaie de mettre on a mis en place ce programme-là qui est rattaché au Centre de recherche Tourisme et Patrimoine du département d'études urbaines. Et il y a des cahiers du CRTP, donc du Centre de recherche en transport, en tourisme.
On n'a plus de temps, François, mais...
Oui, mais ça va être accessible sur Internet, voilà.
Super.
Vous allez sur le site du CRTP. Je travaille fort pour le mettre... Que la synthèse soit accessible sur le net.
Merci beaucoup. On prend une pause. On revient avec Linda Galland de l'Auberge des Galands. Deuxième portion de ce détour qui en vaut la peine. L'émission Ça vaut le détour avec à la régie Kamal Salifou, à la recherche Lynn Gargano. Mon nom est Luc Fortin. On est là jusqu'à la fin de l'heure et on continue dans notre intérêt touristique. Au lendemain de la clôture de ce sommet Destination pour tous. D'ailleurs, on y reviendra la semaine prochaine. On va causer avec la Fédération des pourvoiries. On va également causer avec la présidente du conseil d'administration de Kéroul, qui n'était pas disponible aujourd'hui. Donc, on va revenir là-dessus la semaine prochaine. Et je pense qu'ils peuvent quand même être fiers de ce qui s'est passé. Si vous avez regardé la facture mardi, vous vous souvenez peut-être de Linda Galland, reportage d'ailleurs qui va susciter une discussion demain à l'émission Accès libre sur le non-respect de la loi par tous les hôtels montréalais. On y reviendra avec la journaliste d'enquête Claire Frémont et Sophie Lanteau de Société Logique. Bonjour, Linda Galland.
Bonjour.
Est-ce que vous êtes propriétaire depuis 1972 de l'Auberge des Galands?
Mon mari est propriétaire depuis 1972 et je me suis joint à lui en 82.
C'est long, 42 ans, pour c'est tellement essoufflant de tenir une auberge. Et là, vous avez l'auberge, le restaurant, l'érablière à 10 000 en taille, le spa santé, c'est fou.
Bien, merci beaucoup, mais nous avons maintenant la relève qui nous aide. Alors, si ce n'était, si on n'avait pas les trois garçons, les trois fils qui sont rendus grands maintenant, dont un qui est le chef cuisinier, c'est certain, on aurait peut-être repensé avant de reconstruire après un feu en 2012.
Ouais. Un feu qui... on peut le dire, maintenant que l'épreuve est derrière vous, a été bénéfique pour une partie de votre clientèle, celle à mobilité réduite, parce que ça vous a donné l'occasion, dans la rénovation ou la reconstruction, de modifier certains aspects de vos installations.
Exactement. Étant de plus en plus consciente via nos associations touristiques et surtout via Kéroul, qui travaille vraiment fort à sensibiliser les hôteliers et les autres fournisseurs de produits touristiques à être plus accessibles. C'est certain que, vu que j'avais du temps à y réfléchir, l'architecte au départ s'est assuré d'avoir des plans avec le nombre exigé par la loi, le 10%. Mais après ça, c'était vraiment à moi là, de voir comment on était pour le meubler, comment on était pour où on était pour les situer, quel genre d'ameublement et s'assurer que bon, le tout était bien fait. Alors on a rajouté des petites choses qui sont pas nécessairement au niveau de la loi, mais que je trouvais que c'était du gros bon sens. Et sincèrement, à date, le résultat, je suis charmée, mais plus important, c'est que les clients qui utilisent ces chambres-là, et il y en a à tous les semaines, sont vraiment ravis.
Ça a pris une deuxième épreuve, à savoir un AVC pour votre mari. Et là, évidemment, comme c'est le proprio, on veut que monsieur puisse aller partout, profiter de ses installations et offrir tout ce qu'il peut offrir. Mais pour quelqu'un qui ne vit pas ces épreuves-là, qui est propriétaire et qui ne voit pas l'importance de s'adapter à cette clientèle-là, comment motiver ces propriétaires-là à, disons, ouvrir un œil plus grand?
Sincèrement, il n'y a aucun propriétaire d'hôtel qui a les moyens d'exclure cette clientèle-là. Je pense qu'on a trop souvent une image d'une personne en fauteuil roulant qui va arriver à l'hôtel et qui va utiliser ces chambres-là et que ces chambres-là sont réservés uniquement pour cette clientèle-là. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment faux. Lorsqu'on loue des chambres, si on a 200 chambres ou 100 chambres ou 40 chambres, s'il y a 200 personnes qui appellent pour réserver ces chambres-là, on va les louer à n'importe qui.
Ouais, c'est pas comme un espace de stationnement.
Exactement.
Ouais, ouais, ouais.
La chambre va servir à tous les clients. Sauf que lorsque vos chambres sont complètes, si vous avez un client qui spécifie la nécessité d'une chambre adaptée, c'est certain qu'il va avoir priorité. Alors, sincèrement, et ces gens-là ne sont... C'est peut-être quelqu'un qui a une jambe brisée, c'est peut-être quelqu'un qui a de l'âge et qui marche avec une marchette ou une canne ou qui veut se sentir plus en sécurité, une personne âgée. Alors, vraiment, ça va servir à tout le monde. Mais ce que je comprends pas de ces hôtels-là ou ces entreprises-là, c'est que souvent et la plupart du temps, ces personnes-là vont arriver toujours accompagnées. Et lors de grands rassemblements, que ce soit pour un mariage, un anniversaire, un party de Noël, pour n'importe quelle raison, la minute que nous avons un regroupement de personnes, il y a toujours quelqu'un qui aurait besoin d'une chambre comme celle-là.
Mmh. Et donc, tout le monde vient chez vous parce que l'accès est offert à cette personne-là et vous avez 80 clients de plus.
Je pense qu'il y a beaucoup d'hôteliers qui ne sont pas sur le plancher et qui n'entendent pas les besoins des clients. Alors, moi, je travaille encore sur le plancher. Je suis à la réception. J'entends les commentaires. Je reçois les clients qui sont en recherche pour une salle de banquet. Et j'entends souvent, oh mon Dieu, ça nous prend absolument l'accessibilité. J'ai ma grand-mère qui est en chaise roulante. Je veux absolument qu'elle soit avec nous cette journée-là. Quand on entend ces besoins-là, c'est facile de l'intégrer dans le projet. Et c'est peut-être ça la différence.
Oui.
C'est qu'il y en a qui ne sont pas assez accessibles. Alors, ils n'entendent pas les besoins.
Mm-hmm.
Il y a aussi un autre fait, je pense, qui change un peu la donne au niveau dans l'hôtellerie. C'est que souvent, les agrandissements ou les nouveaux hôtels, c'est des comptes d'hôtels. Ça veut dire que c'est des propriétaires individuels qui achètent une chambre d'hôtel et que l'hôtel va le gérer, la franchise va le gérer. Ben là, c'est réellement, est-ce que ces gens-là vont acheter une chambre régulière ou ils veulent avoir une chambre adaptée? C'est peut-être là le problème,
ouais,
lorsqu'ils ont plusieurs chambres, c'est qu'ils réussissent pas à vendre des chambres adaptées à ces gens-là. Mais à ce moment-là, il faudrait que l'hôtel peut-être en ait suffisamment au nom de l'hôtel, mm-hmm, pour combler la norme qui est le 10%.
Bon, laissons les autres de côté. On parlera d'eux quand ils seront gentils. mais bon, 400 arpents sur le Mont-Rigaud, on l'a dit, restaurant, érablière, 10 000 en taille, le spa santé, l'auberge. Qu'est-ce qui est accessible et qu'est-ce qui ne l'est pas tout à fait?
Bon, on a rajouté un ascenseur. Alors maintenant, les trois étages, alors le rez-de-chaussée, premier et deuxième étage, sont tous accessibles maintenant. Les salles de banquet sont accessibles. La cabane à sucre est accessible. Le restaurant est accessible. Les banquets sont accessibles. La salle de jeu est accessible. Alors vraiment, le seul endroit qui ne serait pas accessible, bon, on a une piscine, puis on a des spas. Je n'ai pas les équipements pour permettre à une chaise de descendre dans la piscine.
Mm-hmm.
Alors, si quelqu'un a quand même une mobilité restreinte pour pouvoir descendre les marches, il y a quand même des bars à côté pour faciliter l'accès. Bon, ça devient plus accessible. Il y a le centre de santé au deuxième étage qui est dans une très ancienne partie de l'auberge qui a été construite en 1908.
Wow.
Alors, les portes sont plus petites. Alors, si c'est une chaise normale, ça passe et nous avons les tables qui sont électriques. Alors, on peut les baisser,
ouais,
pour faciliter le transfert de chaise à la table. Mais on peut aussi aller dans les chambres des invités si jamais ils préfèrent avoir un soin à la chambre. On peut aussi leur offrir ce service-là. Alors, je vous dirais qu'on est... On n'est pas 100%, mais on n'est pas loin d'être accessible pour tous.
Est-ce qu'il est possible pour une personne en fauteuil ou vraiment qui a peut-être la difficulté à marcher de circuler quelque peu dans les sentiers de l'érablière? Parce que moi, en tout cas, ce serait une des choses que j'aimerais faire, même si j'étais en fauteuil roulant.
Nous avons un petit véhicule, une voiturette, un kart électrique de golf. Si les gens veulent utiliser le kart... S'ils sont électriques, oui, il n'y a aucun problème. Mais ce n'est pas... C'est quand même sablonneux.
Ouais.
Alors, avec des roches. Alors, ça peut... Il y a certains endroits où peut-être il y a un petit peu plus de roches. Mais définitivement, les sentiers qui sont... Les cinq arpents qui sont autour de l'auberge sont tous accessibles. Et on a des jardins magnifiques. Ça prendrait 1 heure, 2 heures pour vraiment apprécier chacun. Je pense que j'ai plus de 8 grands jardins à l'intérieur de nos jardins. Alors ça, oui, définitivement, c'est très accessible et on voit souvent les clients se promener dans nos jardins.
Mm-hmm. Linda, j'ai envie de revenir sur l'argument économique parce que c'est souvent un argument qu'utilise Kéroul. J'ai envie de vous demander, je ne sais pas si vous avez des chiffres, mais si vous n'étiez pas disposé à recevoir la personne qui vit avec des limitations fonctionnelles, votre chiffre d'affaires pourrait diminuer de quel pourcentage?
Mon Dieu, moi, je vous dirais que ça représente un bon 15 à 20
%, ah oui, hein,
de notre chiffre d'affaires si j'inclus le groupe qui vient parce que cette personne-là,
mm-hmm,
peut y être. Moi, je me rappelle, avant le feu, je peux vous donner un exemple d'une perte de revenus tangible. C'était la fondation Lucie Chagnon qui ont une fondation et puis la directrice ou quelqu'un parmi le conseil d'administration avait justement des capacités restreintes et avait des besoins particuliers qu'on n'a pas été capable de combler, mais qu'aujourd'hui, on peut le faire. Ben, on a perdu le contrat. Ouais. C'était réservé chez nous, là. C'était pour 3 jours, une vingtaine de personnes. C'est beaucoup de sous, ça. Alors, personne n'a les moyens de perdre même un contrat comme ça.
Merci beaucoup, beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça et d'être, disons, un témoin vivant au-delà de juste des arguments émis par des personnes handicapées que l'on pourrait considérer comme, ben c'est sûr qu'ils disent ça, ils ont intérêt à dire ça, mais là, vous, votre intérêt n'est pas de sortir pour aller quelque part, mais bien d'accueillir tout le monde, et ce qu'on comprend, c'est que finalement, en se faisant, vous êtes gagnant, tout comme tout le monde qui vont chez vous.
Exact.
Ouais. Merci beaucoup, Linda Gallant.
Merci.
L'auberge des Gallants, donc, située sur le mont Rigaud, en Montérégie. Et tiens, partons de Rigaud pour En musique, aller vers Stoke.
Ce matin avec le soleil de Lila Belunda, avec le soleil ce matin je me suis levé.
J'ai vu passer à la fenêtre
de Lila Belunda, à la fenêtre j'ai vu passer un visage rêvé.
Un instant j'ai bien cru n'être point éveillé,
puis soudain j'ai entendu frapper. L'inconnu était une femme de Lila Belunda, une femme comme on en voit peu, je l'ai fait entrer.
J'ai fixé longtemps son regard
de Lila Belunda, son regard si peu troublé m'a vraiment intrigué.
Je l'ai invité à s'asseoir à ma table
et ensemble nous avons dîné. Elle m'a raconté son histoire
de Lila Belunda,
son histoire elle m'a raconté,
je l'ai écouté.
Elle a perdu son amoureux
de Lila Belunda,
son amoureux mort à la guerre
loin de son pays.
Il n'a jamais vu l'enfant qui est mort ce matin,
il n'a jamais su qu'il était père.
Ce matin tout près de la rivière
de Lila Belunda,
près de la rivière ce matin
leur enfant pleurait.
Dès qu'elle eut traversé le pont
de Lila Belunda,
le pont aussitôt traversé,
elle se sentit bien.
Seule, elle a suivi la route qui mène chez moi
et sans hésiter elle a frappé.
Ouais, c'était pas notre balade à Stoke, mais c'était quand même fort apprécié. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ce matin. Et il me semble que c'est toujours bon du Jimmy Bertrand. Au bout du fil, Alban Lené, qui, elle, est chef de division intérimaire. On vous souhaite garder le boulot, Alban.
Merci.
Vous travaillez dans le rayonnement et relations avec le public. Et aujourd'hui, du côté d'Espace pour la vie, on voulait d'abord signaler l'intérêt que pourraient avoir les personnes à mobilité réduite avec la cour des sens, avec les nouvelles places accessibles pour le planétarium Rio Tinto Alcan, il y en a 4. Mais je voulais savoir, est-ce qu'on va aller plus loin? Est-ce qu'on espère éventuellement que le jardin Première Nation, que finalement, graduellement, Espace pour la vie dans son ensemble répondent aux critères de l'accessibilité universelle?
Bien, je vous dirais, en fait, M. Fortin, c'est vraiment un des objectifs d'Espace pour la vie d'améliorer en continu l'accessibilité universelle dans nos 4 institutions. Donc, que ce soit au biodôme, au jardin botanique, à l'insectarium, au planétarium Rio Tinto Alcan, on a pris différentes mesures pour s'assurer justement que les personnes à mobilité réduite puissent avoir une expérience satisfaisante et très satisfaisante même.
Puis en passant, gênez-vous pas là, Luc, c'est parfait. Lorsque je suis allé il y a 2 ans, je crois, voir l'exposition 1000 jours pour la planète, Il y avait quelqu'un qui répondait aux questions. On pouvait également entrer en communication avec quelqu'un sur le bateau.
Oui.
Mais sinon, tout le reste, moi qui suis aveugle, était inaccessible ou à peu près. Il y avait quelques topos, des reportages en audiovisuel, mais il y avait beaucoup d'écriture. Est-ce qu'on va éventuellement avoir des audioguides à Espace pour la vie?
Alors, mais c'est ça, justement. En fait, ce n'est pas tant un audio guide qu'une application mobile sur laquelle on est en train de travailler. Alors, on prévoit des parcours. Je vous dirais qu'on est au balbutiement. On regarde vraiment quels sont les meilleurs médias pour disons, offrir une visite optimale. Mais souvent, c'est l'audiovisuel. Hein. C'est beaucoup de podcasts pour permettre aux visiteurs, et notamment aux non-voyants, donc d'apprécier cette expérience. Également, j'aimerais quand même souligner, vous avez mentionné la cour des sens. C'est un des petits jardins qu'on a, un des secrets les mieux gardés, en fait, au jardin botanique. C'est un jardin qui a été créé en 1999 avec l'Institut Braille et qui est divisé en quatre sections, qui nous permet, en fait, de découvrir le jardin avec d'autres sens que la vue. Donc, on parle du toucher, on parle de l'odorat. Et même les non-voyants peuvent profiter vraiment de cette visite-là, peuvent toucher les plantes, peuvent les sentir. Il y a un bassin d'eau au milieu qui leur permet également de se repérer. On offre également l'expérience aux personnes qui peuvent voir. On leur propose de porter un bandeau. Ce sont des guides qui sont la plupart non-voyants qui animent ce petit jardin-là.
Et ça, je pense qu'il faut le dire, il y a de la création d'emplois et en même temps de la formation. Bon, Fiston a déjà travaillé et des amis de Fiston également. Et évidemment, tu as un boulot, mais tu dois apprendre pour être capable de transmettre ces connaissances-là. Donc, ça devient un emploi fort utile pour le développement d'un jeune adulte.
Exactement. Exactement. C'est vraiment c'est une très belle expérience, je pense, pour ces gens-là. Et le contact, on reçoit quand même 900 000 visiteurs au Jardin botanique. Alors, il y a énormément de gens qui passent par la cour des sens. C'est un environnement qui est animé de juin à septembre durant la haute saison. Donc, beaucoup, beaucoup de contacts avec les plus jeunes, les plus vieux. C'est une clientèle familiale également. Donc, je le conseille à tous.
Alban, est-ce qu'on a une idée du renouvellement obligé parce que tout le monde touche à tout dans la cour des sens? J'imagine qu'il faut planter pas mal souvent, là.
C'est une bonne question. Je dois avouer que je ne le sais pas. C'est quand même la plupart des vivaces. Ces plantes-là, je peux vous dire que les plantes qu'on goûte, entre autres, à la fin du parcours, ça, c'est certain qu'il doit falloir les replanter.
Mais ça aussi, je veux dire, bon, on parle d'accessibilité universelle. Vous mentionniez les familles. Je veux dire, rarement les enfants peuvent toucher, pincer pour ensuite humer les doigts. Et donc, c'est vraiment... on ne parle pas de la personne handicapée nécessairement, mais d'un accès à tous.
Effectivement. Ouais. C'est vraiment la particularité de la cour des sens. Contrairement aux autres jardins où on demande aux gens de ne pas toucher nos bonsaïs ou les grandes plantes de collection, là, c'est une autre expérience qu'on vit.
Revenons aux expositions parce que je sais, entre autres, que il y en a au planétarium et à l'ouverture, j'avais posé la question, puis bon, c'était pas encore au point au niveau de la balado-diffusion et ces choses-là. Vous disiez que, bon, le travail était en cours. Est-ce qu'on peut avoir une sorte d'échéancier, à savoir, bon, telle partie, ou que ce soit l'insectarium, le biodôme, ou...
C'est ça. En fait, en termes d'accessibilité universelle, on a quand même l'accessibilité au niveau architectural et urbanistique, je vous dirais, qui est déjà en place. Nos quatre institutions sont accessibles, quels que soient les pavillons, les bâtiments. On essaye d'aller plus loin au niveau des programmes et des services. La cour des sens est un exemple pour le jardin botanique. On a le sentier qui roule également, qui est un autre accès, un autre parcours en fait au jardin botanique également, 2,5 km de parcours qui nous permet, qui permet aux gens à mobilité réduite de visiter le jardin, de parcourir le jardin justement, de voir ses grands attraits. Au biodôme, on a évidemment un accès quand même également très facile pour les personnes à mobilité réduite. Planétaria, même chose. Au niveau du contenu, puis j'entends bien votre demande, c'est petit pas à petit pas. Et comme je vous dis, on travaille sur une application actuellement. On veut développer cette partie-là des outils audio guide podcast.
Ouais. Mais j'entends entre les lignes que ce n'est pas pour demain.
Ben, l'application, on y travaille pour l'année prochaine.
Okay.
On est vraiment, on y planche et elle devrait sortir au printemps-été 2015. On n'aura pas nécessairement tous les produits disponibles et tous les contenus qu'on souhaiterait au 1er juillet 2015. Je ne vous le cache pas parce que c'est un long travail, ça, de production. Mais la beauté de la chose, c'est ça, c'est avec le numérique qu'on peut vraiment s'améliorer au fur et à mesure. Donc, on va faire un travail continu d'amélioration de contenu. Et également, j'en profite pour signaler notre site web également. On s'est assuré, il y a eu une refonte complète il y a 2 ans, on s'est assuré qu'il soit accessible également aux non-voyants. Il y a énormément de contenu, on a 8000 pages de contenu. Et on a banni le flash. On s'est assuré que ce soit même les photos et une description lisible par les logiciels de ces personnes-là.
Oui, c'est excellent parce que justement, le site de 1000 jours pour la planète, lorsque je le consultais au début de l'aventure, parfois l'animateur s'arrachait les cheveux de la tête. Mais je comprends que ce n'est pas un contenu qui est sous votre responsabilité. Je m'entretiens avec Alban Lenay, qui est chef de division intérimaire du côté du rayonnement et des relations avec le public, ou les publics. Je ne sais pas si vous avez un livre d'invités où les gens peuvent laisser des commentaires, mais je me posais la question, savez-vous s'il y a des gens qui vivent avec des limitations fonctionnelles de l'extérieur qui passent fréquemment pour profiter de l'accessibilité qu'offre Espace pour la vie?
En fait, en termes de commentaires, effectivement, on en a quand même beaucoup. On a des livres d'or sur lesquels les gens peuvent exprimer un peu leur sentiment, leur satisfaction par rapport à leur expérience. On n'arrivera pas nécessairement, je peux pas vous donner de chiffres par rapport aux personnes qui sont à mobilité réduite et qui ont manifesté. C'est plus des gens qui nous ont donné écho, par exemple à l'Insectarium, qui ont apprécié le fait qu'on leur ait prêté des fauteuils roulants, parce que c'est un des services qu'on offre
dans
nos 4 institutions, un prêt de fauteuils roulants. Ces gens-là ont également manifesté leur appréciation d'avoir des ascenseurs, que les portes s'ouvraient automatiquement, des choses comme ça. Alors, après, souvent, et ça c'est le genre humain, on a plutôt tendance à commenter quand c'est négatif.
Ouais,
alors,
ouais.
Quand tout va bien, mais on a un petit peu moins les échos. TripAdvisor, c'est un réseau social qui nous permet justement de mesurer la satisfaction. On a de très bons taux de satisfaction de l'ensemble de nos visiteurs. Mais je ne pourrais pas vous dire si dans tous ces commentaires-là, est-ce que ce sont des gens qui étaient à mobilité réduite
ouais, je comprends.
Dans ces cas-là.
Est-ce que les lanternes, souvent ça va jusqu'à Halloween, est-ce que on est sur la fin, mais elles sont toujours...
Oui.
En exposition.
Oui, tout à fait. Les jardins de lumière, en fait, qui couvrent le jardin de Chine et le jardin japonais. Donc, c'est actuellement et ça se déroule jusqu'au 31 octobre. Alors, ça se termine jusqu'au 2 novembre, pardon. Donc, ça se termine très, très bientôt. Halloween, par contre, c'est le 31 octobre.
Oui, un vendredi, c'est excellent.
Voilà.
Ouais. Vous n'êtes pas obligé de le savoir parce que vous avez peut-être pas l'horaire, mais ce qui fait toujours jaser, ce sont ces fameuses dégustations à l'Insectarium. Vous savez s'il y en a une de prévue prochainement ou d'ici la fin de 2014?
Les fameuses dégustations d'insectes?
Mm-hmm.
Alors, en fait, l'événement Croque-Insecte, ça fait des années qu'il n'existe plus.
Ah, hein. Mon Dieu, c'est tellement...
Oui, et c'est vrai qu'il a beaucoup, beaucoup fait parler, surtout auprès de la clientèle montréalaise.
Pourquoi avoir retiré ça de la programmation?
Je vais vous dire, cette année, nous avons remis un peu les dégustations d'insectes à l'honneur parce que nous avions des 4 à 8 donc cocktails, les petits tapas à base d'insectes qui ont remporté un grand succès. Donc ce n'est pas à l'insectarium même, mais c'est au restaurant du jardin botanique. Et le succès était tel qu'on va répéter l'expérience l'année prochaine, assurément.
Donc, vous l'avez essayé une fois cette année?
Cet été, en fait, les 4 à 8, c'est tous les jeudis, vendredis, samedi. Et nous avons une programmation musicale. Donc, les gens qui viennent sur la terrasse du Jardin botanique peuvent écouter différents groupes de musique. Musique du monde, francophone, ouais. Jazz, etc. Et donc, le principe, c'est cocktail et tapas. Et les jeudis du mois d'août, on a essayé ça donc 4 fois cette année. C'était des dégustations d'insectes. Dégustation de tapas à base d'insectes. Alors, je vous dis, ça a vraiment été un très, très gros succès. Des gens qui venaient spécifiquement juste pour cette activité-là. Et donc, on va reprendre la formule l'année prochaine, peut-être l'étendre à l'été, donc juillet et août.
Petite question, crapaud peut-être. Est-ce que vous avez dans votre personnel, à tout le moins, une personne qui peut signer LSQ pour la personne sourde? Et il vous reste 30 secondes pour y répondre.
Alors, vous allez devoir me dire qu'est-ce que...
La langue des signes du Québec pour les personnes sourdes.
Je ne suis pas certaine. On est quand même 600 employés Espace pour la vie, donc je ne pourrais pas m'avancer sur cette affaire.
OK. C'est donc, disons que ça ne fait pas partie, sinon vous le sauriez, des services pour rendre le tout accessible à tous. C'est ce que je comprends, là.
Oui, malheureusement.
OK. Ben, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je vous dis bonjour à vous et je vous salue, auditeurs, auditrices. Je m'entretenais avec Alban Lenné, qui est chef de division intérimaire du côté du développement et relations avec le public. Merci beaucoup, Kamal Salifou, Lynn Gargano à la recherche. Accès libre demain. Nous allons rester dans le tourisme, cette fois avec ces chambres d'hôtel qui, malheureusement, n'atteignent pas les 10% si vous avez vu la facture. À bientôt.